États-Unis, le New Deal de Roosevelt, le sauvetage du grand capital par l'État. En ces temps de crise financière grave, il est utile de rappeler la crise de 1929, celle à laquelle tous les dirigeants et commentateurs se réfèrent pour comparaison. Le présent article, repris du numéro 59 de Class Struggle, le magazine de l'organisation trotskiste américaine The Spark, ne traite pas du déclenchement de la crise en 1929, mais de la entre guillemets solution qu'a trouvé la bourgeoisie américaine en faisant payer la classe ouvrière. Une page d'histoire à nouveau d'actualité. Ce printemps a marqué le 75e anniversaire de la mise en place du New Deal, littéralement, entre guillemets, la nouvelle donne, par Franklin Delano Roosevelt. Au milieu de la Grande Dépression, en mars 1933, les démocrates ont été portés à la Maison-Blanche, ont pris le contrôle du Congrès et ont fait passer 15 lois très importantes en 100 jours. 2 ans plus tard, Roosevelt et le Congrès mettaient en place la deuxième phase du New Deal. Depuis cette époque, les démocrates sont perçus comme ceux qui ont sauvé l'économie, qui ont lancé des grands travaux publics, qui ont remis les chômeurs au travail, qui ont lancé des programmes sociaux pour les personnes âgées et les pauvres, et même qui ont accordé de nouveaux droits aux syndicats. 75 ans après, alors que l'économie est en chute libre et que l'écart entre les riches et les pauvres est revenu à son niveau d'avant 1929, nombreux sont ceux qui peuvent être tentés de voir dans ce que Roosevelt a fait lors de la Grande Dépression un modèle de l'intervention de l'État pour sauver l'économie et l'homme de la rue. Pourtant, ils se tromperaient lourdement. L'histoire du New Deal de Roosevelt montre tout autre chose. L'effondrement de l'économie. Lorsque Roosevelt prit ses fonctions de président le 4 mars 1933, il prononça ces mots devenus célèbres, entre guillemets, la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Et de fait, il y avait de quoi avoir peur. Le krach de la bourse d'octobre 1929 avait fait éclater une crise économique sans précédent. En 3 ans, les actions avaient perdu 83% de leur valeur maximum. Les énormes montants de valeurs fictives qui s'étaient accumulés lors de la bulle spéculative des années 20 s'étaient évaporés, engendrant ainsi une crise générale de liquidité, réduisant considérablement l'accès au crédit pour les entreprises. Ces dernières ne pouvaient plus payer leurs factures et les salaires. La production s'effondra et les faillites se multiplièrent brutalement. L'ensemble du système financier commençait à s'effondrer, entraînant avec lui les activités de production dans un cercle vicieux qui s'alimentait de lui-même. La dépression s'étendit à travers tous les États-Unis et se propagea sur le plan international, car les États-Unis étaient déjà le centre de l'économie mondiale. La chute économique eut un impact exceptionnel. Entre 1929 et 1933, le produit national brut des États-Unis déclina de 33%, les investissements de 89%, la valeur des constructions résidentielles de 75%, la production de fer et d'acier de 59% et la production automobile de 65%. Les entreprises avaient réalisé près de 10 milliards de profits en 1928. En 1932, elles enregistraient des pertes nettes de plus de 3 milliards de dollars. Les petites entreprises furent les plus durement touchées. Plus les entreprises étaient importantes, plus grandes étaient leurs chances de faire tout de même un profit, bien que souvent moins élevé qu'avant la Grande Dépression. Au milieu de cet effondrement, la classe capitaliste se protégeait des conséquences de la crise de son propre système. Au cours des 4 premières années de la Dépression, les sociétés payèrent 17 milliards de plus en dividendes que ce qu'elles avaient réalisé comme profit après impôts. C'est-à-dire qu'elles vidaient les sociétés de leurs actifs et affaiblissaient la santé financière de leurs entreprises. Les capitalistes utilisèrent leur contrôle sur les sociétés pour les cannibaliser. La pauvreté en pleine abondance. La classe ouvrière n'eut pas cette chance. Les travailleurs furent jetés à la rue sans moyens de subsistance. Les historiens estiment que le taux de chômage a grimpé de 9% en 1929 à 25% en 1933. En comptant les familles des chômeurs, cela touchait 30 millions de personnes sur une population de 122 millions. Plus de la moitié des travailleurs ayant un emploi travaillaient à temps partiel. Ceux qui travaillaient subissaient, en plus du temps partiel, des réductions du salaire horaire. Les plus affectés furent les travailleurs agricoles, pour qui on estime que les salaires ont chuté de 50%. Entre 1930 et 1931, le salaire des travailleurs de l'industrie a été réduit de 9%, et celui des mineurs de charbon bitumineux de 16%. Entre les diminutions de salaire et le chômage, le revenu total de la classe ouvrière fut sévèrement amputé. le revenu total des travailleurs de l'automobile en 1932 n'atteignait que 38% de son niveau de 1929. Les autres industries subissaient des réductions de revenus comparables. Dans une ville industrielle comme Birmingham, en Alabama, une circonscription électorale de 108 000 salariés n'en comptait que 8 000 disposant de leur revenu normal. Bien que cela fût terrible, la Grande Dépression n'avait rien de nouveau. Une bonne partie de la population américaine souffrait déjà de ce que certains historiens nomment, entre guillemets, la vieille pauvreté. Au moins un tiers de la population, plus de 40 millions, entre guillemets, les mal logés, mal vêtus, mal nourris, auxquels Roosevelt fait référence dans un célèbre discours de 1937, étaient déjà indigents bien des années avant la Grande Dépression. Cela comprenait presque toute la population noire, une grande partie de la population blanche du Sud et la plupart des personnes âgées. Tout au long des années 1920, des secteurs importants de l'économie avaient été en crise, entre autres l'agriculture et les industries traditionnelles comme la mine et le textile. La Grande Dépression aggrava une pauvreté chronique, endémique, déjà existante. Dans les bas quartiers des grandes villes et dans les petites villes rurales et minières, la malnutrition s'aggrava, tout comme la tuberculose, la diphtérie et la pélagre. Par millions, les gens furent forcés de vivre sous tente ou dans des cabanes de fortune, souvent appelées entre guillemets « Hooverville », littéralement « ville de Hoover », président de 1929 à 1933. Elles sont évoquées dans « Les raisins de la colère » de Steinbeck. Note du traducteur. Ce n'était pas la capacité de produire qui était en cause, mais bien le système économique qui était en panne. Alors que les sans-emploi portaient des vêtements usés jusqu'à la corde, les fermiers n'arrivaient pas à vendre leur coton. Pendant que les enfants marchaient péniblement à l'école avec des chaussures aux semelles de carton, les fabriques de chaussures de Lynn et Brockton dans le Massachusetts devaient fermer 6 mois par an. Pendant que les gens manquaient de nourriture, les récoltes pourrissaient dans les champs. Les ranchers de l'Ouest, n'arrivant pas à vendre leurs moutons ou à les nourrir, leur tranchaient la gorge et jetaient leurs carcasses dans les canyons. Dans les États des Plaines, État du centre des États-Unis, les gens sous le seuil de pauvreté manifestaient sous les silos remplis à ras-bord de blé. Ainsi, la misère et l'indigence croissaient de manière exponentielle au beau milieu du trop-plein d'abondance. L'échec du gouvernement sous Hoover. Contrairement à une vision répandue, le gouvernement Hoover a essayé de faire face au krach boursier et à l'effondrement de l'économie. La Réserve fédérale, la Banque centrale fédérale des États-Unis, note du traducteur, a accru ses prêts d'urgence aux banques. Hoover a tenté de mettre en place un partenariat entre le gouvernement et les entreprises pour coordonner les efforts visant à arrêter la chute. Le Federal Farm Board, institution fédérale chargée des questions agricoles, a essayé de soutenir les prix agricoles en rachetant les surplus agricoles. Hoover a tenté d'aider le secteur de la construction en encourageant l'intensification des programmes de travaux publics relatifs aux routes, ponts et bâtiments publics. Lorsque la situation économique s'aggrava, le gouvernement Hoover mit en place la Société financière de reconstruction, Reconstruction Finance Corporation, ou RFC, qui avançait des prêts aux États fédérés pour la réalisation de travaux publics, ainsi qu'aux banques privées, aux chemins de fer et aux organisations de crédit agricole. Hoover lança le Federal Home Loan Bank System, un système fédéral de prêts hypothécaires pour aider à l'achat de logements. Ces mesures n'eurent aucun effet pour contenir la crise. À cela, il faut ajouter les mesures protectionnistes qui visaient à tenter de protéger l'économie américaine des répercussions de la crise économique internationale. Il y eut notamment le fameux tarif Smoot-Hawley, relèvement massif des tarifs douaniers américains qui atteignent alors presque 50% sur les produits manufacturés importés. Note du traducteur. Hoover inscrivit dans la loi en 1930 et qui ne fit que faciliter des mesures de représailles de la part des autres gouvernements, réduisant ainsi de manière radicale le commerce mondial et les investissements internationaux, aggravant par là même la dépression. Pire encore, le gouvernement ne fit rien pour aider ceux qui étaient le plus touchés par la dépression. L'aide pour les pauvres était traditionnellement de la responsabilité des États fédérés, des pouvoirs locaux et des organisations locales de charité. Alors que les autorités locales et les patrons accrurent ces aides, cela restait négligeable. Ainsi, pour la ville de New York, le montant des aides sociales grimpa de 9 millions de dollars en 1930 à 58 millions en 1938 et les dons des bonnes œuvres furent multipliés par 5. Mais tout cela ne constituait qu'un mois de salaire pour les 800 000 New-Yorkais sans emploi. Et cela était bien pire dans d'autres grandes villes, pour ne pas parler des petites villes et des zones rurales pour lesquelles il n'y avait presque aucune aide sociale ou œuvre de charité. Hoover devint le symbole de la Grande Dépression. Il y avait les Hooverville et le Hoover Salut, le salut à la Hoover, consistait à retourner ses poches vides. Lorsque Hoover se lança dans la campagne présidentielle de 1932, lui et son entourage furent souvent accueillis par des sifflets et bombardés de légumes et fruits pourris. Il ne pouvait pas s'aventurer hors de la Maison-Blanche sans une escorte extraordinaire renforcée des services secrets pour le protéger d'une population en colère et désespérée. Le premier New Deal au secours de la propriété privée. Fraîchement élu, Roosevelt sembla s'attaquer, entre guillemets, au « big business ». Dans son discours inaugural du 4 mars 1933, il invectiva, entre guillemets, les brasseurs d'argent qui ont fui leur piédestal dressé dans le temple de la civilisation. Roosevelt promet alors, entre guillemets, de reconstruire le temple sur les vérités anciennes et, entre guillemets, de faire face à l'urgence de la situation avec tous les moyens mis à sa disposition par sa fonction et de combattre comme si les États-Unis étaient envahis par un ennemi étranger. Tous ceux qui espéraient que cette rhétorique biblique signifiait que Roosevelt allait, entre guillemets, jeter les brasseurs d'argent hors du temple, se trompaient lourdement. La première mesure du New Deal visait à résoudre la crise bancaire. À la fin de 1932, 5200 banques commerciales étaient en faillite, plus d'une sur cinq. Presque toutes les banques étaient fermées au printemps 1933. En fait, la plupart des institutions encore ouvertes connaissaient la déroute. Les prêts bancaires n'étaient plus remboursés et les banques n'étaient plus en mesure de fournir de crédit. Le système bancaire dans son entier était pratiquement gelé. La législation bancaire d'urgence de Roosevelt étendait l'assistance financière de l'État aux banques privées pour qu'elles puissent ouvrir à nouveau. La loi permettait à la Compagnie financière de reconstruction, la RFC mise en place par Hoover, de racheter des actions bancaires privilégiées. Elle étendait les capacités d'émission monétaire de la Réserve fédérale et autorisait la réouverture des banques sous le strict contrôle de l'État. C'était une mesure parfaitement conservatrice qui avait été principalement rédigée par les banquiers privés et de hauts responsables du gouvernement Hoover, dont Arthur Ballantyne, le sous-secrétaire du Trésor sous Hoover, qui resta en fonction sous Roosevelt. Le soutien de l'État permit aux banques de rouvrir et les mêmes banquiers furent remis en selle, souscrivant, entre guillemets, aux vérités anciennes de Roosevelt de faire de l'argent. 3 mois plus tard, le Congrès fit passer une loi relative aux détenteurs d'un prêt immobilier, le Home Owners Loan Act, HOLA, qui organisait le sauvetage du secteur immobilier et financier plutôt que celui des propriétaires d'un logement. Sans devoir modifier le montant de leurs créances, les banques pouvaient échanger leurs créances hypothécaires douteuses contre des bons du Trésor garantis par l'État. La loi n'accorda aucune aide aux petits propriétaires qui étaient au chômage et permit de saisir plus de biens hypothéqués que dans les pires mélodrames. D'autres lois suivirent pour secourir les autres secteurs de l'économie rédigées par les grandes entreprises des secteurs concernés. Une loi cadre pour résoudre la crise agricole, Agricultural Adjustment Act ou AAA, visait à faire grimper les prix des produits agricoles en limitant la production et en payant les agriculteurs pour qu'ils ne produisent pas. Comme ces subventions dépendaient directement du nombre d'acres, unité de mesure foncière aux États-Unis valant un demi-hectare, note du traducteur, les plus gros agriculteurs se taillèrent la part du lion des avantages fournis par cette loi. Les petits optèrent très peu, et les fermiers et les métayers qui ne possédaient pas de terre n'eurent droit à rien. De plus, la mise en jachère imposée par la nouvelle loi les expulsait des terres. Pour faire face à la crise du secteur industriel privé, Roosevelt fit passer une loi de relance industrielle nationale, National Industrial Recovery Act ou NIRA. Cette loi fut écrite sous l'influence de dirigeants d'entreprises comme Gerard Swap de General Electric et Henry Harriman de la Chambre de commerce américaine. Cela codifiait le partenariat État-entreprise que Hoover avait essayé de promouvoir, le gouvernement supervisant un vaste processus de cartélisation. Les lois antitrust furent suspendues. Les plus grandes entreprises se partagèrent les secteurs et les marchés. Elles fixèrent les prix et les salaires et elles éliminèrent les entreprises plus petites. Ces deux lois, la AAA et la NIRA, visaient à accroître les profits de la bourgeoisie, agricole comme industrielle. les plus grandes entreprises étaient encouragées à négocier une sorte de pacte de non-agression dans lequel elles s'accordaient sur le fait de ne pas se concurrencer en baissant les prix pendant qu'elles réduisaient la production et augmentaient les prix. La politique financière internationale de Roosevelt fut également mise en place dans les 100 premiers jours de son gouvernement. Sous Roosevelt, le gouvernement dévalua le dollar, fit gonfler la masse monétaire et sortit le dollar du système de l'étalon or. Non seulement le gouvernement rembourserait sa dette avec des dollars bon marché, mais cela permettrait aux exportations US d'être plus compétitives que la concurrence internationale. Lorsque les grandes puissances européennes voulurent organiser une conférence à Londres en juin 1933 pour tenter de stabiliser les principales devises afin de relancer le commerce international, Roosevelt refusa d'y participer. Non seulement cela fit capoter la conférence, mais cela attisa la guerre économique globale qui fut le prélude à la Deuxième Guerre mondiale. Les travaux publics pour les capitalistes. Finalement, le gouvernement lança de vastes programmes de travaux publics, intervenant pour réaliser ce que les capitalistes n'avaient pas fait eux-mêmes pendant les décennies précédentes. Une bonne partie des infrastructures des États-Unis datait du XIXe siècle. Routes non pavées, ponts branlants, distribution et traitement des eaux inadéquates ou inexistants, parcs nationaux et forêts endommagés par la déforestation et l'érosion, absence de système de prévention et de gestion des inondations dans des régions entières du pays. Alors que les villes disposaient de l'électricité, la plupart des campagnes demeuraient dans le noir, laissant 80% de la population rurale sans électricité. Une des premières mesures du New Deal fut la création de la Tennessee Valley Authority, la TVA. Le fleuve Tennessee traversait 7 États du Sud, régions pauvres et sous-développées. En 1933, plus de 30% de la population y était frappée par la malaria et le revenu annuel n'y était que de $639, certaines familles ne survivant qu'avec $100 par an. La plupart des terres avaient été cultivées trop intensément et depuis trop longtemps, érodant et appauvrissant la terre. Les récoltes avaient chuté avec les revenus des agriculteurs. Le meilleur bois avait déjà été coupé. Dans le Mississippi, seule une ferme sur 100 avait accès à l'électricité. La TVA allait construire plusieurs barrages multifonctions qui allaient servir de réservoirs pour contrôler les inondations et également produire une énergie hydroélectrique bon marché. La TVA, qui devenait une société publique, allait produire des engrais, creuser un canal de navigation de 650 miles de Knoxville à Paducah, prendre en charge la conservation du sol et la reforestation. La TVA, avec son électricité bon marché, attira de nouvelles industries dans la région. Le corps d'armée des ingénieurs construisit sur le fleuve Columbia le barrage Grand Coulee, dont le lac de retenue d'eau s'étendit sur plus de 200 km de long et qui produisit de l'énergie permettant l'industrialisation de la région pacifique du Nord-Ouest. Le barrage rendit possible la mise en valeur de 500 000 hectares de terre pour l'agriculture. L'organisme civil de protection de la nature, Civilian Conservation Corps, CCC, utilisa de nombreux jeunes chômeurs des grandes villes pour construire des parcs et planter des arbres. Sous la direction du CCC, 3 milliards d'arbres furent ainsi plantés de 1933 à 1942. Ce fut déterminant, surtout pour les États qui avaient été touchés par le Dust Bowl. Note du traducteur, phénomène climatique d'une tempête de sable venue du désert du Sud et qui avait dévasté des milliers de fermes du Sud et du Midwest US, mentionné dans Les raisins de la colère de Steinbeck, où la reforestation était nécessaire pour arrêter le vent, retenir l'eau dans la terre et éviter l'érosion du sol. Le CCC fut à l'origine de plus de la moitié de l'effort de reforestation, public comme privé, réalisé au cours de l'histoire du pays. Le plus grand programme de travaux publics fut réalisé par la Work Progress Administration, WPA, qui fut chargée de construire le Triborough Bridge et le tunnel Lincoln à New York, le port de San Francisco Bay, le barrage Hoover et l'aéroport national de Washington, aujourd'hui rebaptisé Ronald Reagan. Elle construisit le port de Brownsville, au Texas, et aménagea les rives de la San Antonio River. Elle relia Key West à la Floride continentale et fit passer l'autoroute côtière de l'Oregon au-dessus des fleuves. En tout, la WPA construisit 78 000 ponts et viaducs et en renforça 46 000 autres. Elle développa 572 000 miles de route dans les campagnes, plus de 900 000 km, et 67 000 miles de rues dans les villes, plus de 100 000 km. Elle construisit ou rénova également 39 000 écoles, 2 500 hôpitaux et 12 800 terrains de jeu. Pour venir au secours de la bourgeoisie, en relançant certains secteurs d'une production effondrée, l'État intervint donc, avec l'argent des contribuables, pour investir dans les infrastructures que la bourgeoisie n'avait pas ou insuffisamment développées. Des conditions de travail aggravées. Néanmoins, tous ces programmes de travaux publics n'avaient pas fait diminuer le taux de chômage et n'avaient pas amélioré la situation de la classe ouvrière. Les programmes gouvernementaux ont pu employer à certains moments des millions de travailleurs licenciés par le secteur privé. Mais même lors de leur développement maximum, ces programmes de travaux publics n'employèrent qu'une toute petite partie des chômeurs. De plus, les programmes étaient conçus de façon à maintenir des bas salaires dans le secteur privé. Ainsi, tout travailleur qui refusait un emploi dans le secteur privé ne pouvait pas être embauché par la WPA. De plus, les salaires offerts dans le cadre de ces programmes étaient minimaux et encore plus bas dans les régions les plus pauvres, continuant ainsi d'entretenir des poches de bas salaires dont profitait la bourgeoisie. Les embauches furent organisées selon les règles de ségrégation raciale à la Jim Crow, note de traducteur, nom qui symbolise l'ensemble des lois de discrimination raciale mises en place à la fin du XIXe siècle à l'encontre de la population noire dans une série d'États des États-Unis. À cela, il fallait ajouter des conditions de travail difficiles et de très longs horaires. La célèbre revue The Nation les appelait, entre guillemets, les groupes de forçats fédéraux. Enfin, les programmes étaient contrôlés par des satrapes politiques locaux qui les dirigeaient comme une machine clientéliste pour consolider et étendre leur pouvoir. Un des pires exemples de ce type de clientélisme fut le New Jersey, où toutes les personnes travaillant pour la WPA devaient donner, entre guillemets, leur dîme de 3% à l'appareil politique de Frank Hague du Parti démocrate. L'administration Roosevelt ne fit presque rien pour étendre la couverture sociale au reste des chômeurs. L'administration fédérale, chargée de l'aide sociale d'urgence, Federal Emergency Relief Administration, ou FERA, dirigée par le lieutenant de Roosevelt Harry Hopkins, était une extension de l'effort en matière d'aide sociale aux chômeurs de la RFC, Société financière de reconstruction mise en place par Herbert Hoover et par le Congrès américain en 1932. Alors qu'elle était censée fournir aux États fédérés et aux pouvoirs locaux des moyens financiers supplémentaires pour étendre les aides sociales aux chômeurs, les montants dispensés étaient dérisoires. Au cours de sa première année, la FERA déboursa près d'un demi-milliard de dollars pour les 15 millions de chômeurs, ce qui représentait en moyenne par personne et par an la somme dérisoire de 33 dollars. Parallèlement, le gouvernement lança d'autres attaques. Une des premières lois du New Deal fut d'accorder à Roosevelt le pouvoir de réduire de 500 millions de dollars les pensions des anciens combattants et le traitement des fonctionnaires fédéraux, les réduisant ainsi de moitié. Ce fut fait sous le prétexte d'être, entre guillemets, fiscalement responsable. En d'autres termes, la population laborieuse payait pour les programmes coûteux du New Deal qui servaient les intérêts de Wall Street et de la classe capitaliste. En réalité, Roosevelt, comme les patrons privés, utilisait la crise pour faire baisser le coût du travail. En aucun cas, le New Deal n'a mis fin ou n'a constitué une trêve à la guerre que la bourgeoisie menait contre les travailleurs. Le gouvernement confronté à l'explosion sociale. La population laborieuse et les pauvres répondirent de diverses manières aux attaques de la bourgeoisie et de l'État. Dans les premiers moments de la crise, les réactions avaient été isolées et peu organisées, reflétant ainsi le profond degré de désespoir. Parmi ces réactions, on peut citer les marches de la faim, les efforts collectifs pour empêcher les saisies de logements et de fermes, et la récupération de nourriture et de fioul dans les entrepôts et les entreprises. Dans le sud, les fermiers et les métayers expulsés des terres s'organisèrent dans des associations comme le syndicat des fermiers du sud, qui défiait souvent les lois racistes Jim Crow, en rassemblant des fermiers noirs et blancs. Certains de ces combats furent victorieux, mais la plupart du temps les travailleurs furent battus par la terreur organisée de la police et des vigiles privés. Ainsi, lors de la marche pour la faim de Ford en 1932, 4 000 travailleurs sans emploi des environs de Détroit manifestèrent du centre-ville vers l'usine Ford de River Rouge pour exiger du travail. ils furent reçus par la police de Dearborn et l'armée privée d'Henry Ford qui les mitraillèrent, tuant 5 travailleurs et en blessant plus d'une vingtaine d'autres. La marche de la Prime de 1932 fut probablement une des plus célèbres de ces manifestations des premiers temps de la crise. Elle rassembla 20 000 anciens combattants qui manifestèrent avec leurs familles à Washington. En 1924, le Congrès avait promis une prime aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale, mais il en différa le paiement jusqu'en 1945. Les anciens combattants manifestèrent pour exiger son paiement immédiat. La manifestation commença par les anciens combattants chômeurs et les sans-le-sou de Portland, dans l'Oregon, sur la côte ouest des États-Unis, qui traversèrent ainsi tout le pays. Au fur et à mesure que la nouvelle s'ébruitait, ils étaient rejoints par des milliers d'autres. Les vétérans et leurs familles campèrent près du Capitole, bâtiment du Congrès à Washington, note du traducteur, en attendant la réponse du Congrès. Lorsque le Congrès les ignora, la plupart des vétérans refusèrent de partir. Hoover ordonna à l'armée US, dirigée par Douglas MacArthur, de les repousser, la baïonnette au fusil et en utilisant le gaz lacrymogène, et de brûler leur campement. Le gouvernement démocrate de Roosevelt se démarquait du gouvernement républicain de Hoover en courtisant officiellement les dirigeants syndicaux, en prétendant que le New Deal était un partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et les syndicats, et en obtenant leur soutien pour les règles de contrôle des prix et des salaires élaborées par l'organisme The National Recovery Administration, ou NRA, chargé de mettre en œuvre la National Industrial Recovery Act, NIRA, la loi de relance industrielle. La NRA fit la promesse symbolique que tous les travailleurs de l'industrie pourraient, entre guillemets, s'organiser et négocier collectivement par le biais de représentants de leur propre choix, comme le stipulait la célèbre section 7A de la National Industrial Recovery Act. La NRA mit également en place nombre de, entre guillemets, commissions du travail, labor boards, supposées, entre guillemets, aider les travailleurs à constituer des syndicats. De nombreux dirigeants syndicaux déclarèrent que cela marquait un changement historique, que Roosevelt et le New Deal étaient de leur côté. Roosevelt semblait confirmer cela dans ses discours, entre guillemets, « Cette loi accorde aux travailleurs de ce pays des droits qu'on ne peut leur aliéner et personne ne pourra les attaquer. » Mais il y avait un piège. Roosevelt déclara, entre guillemets, « Désormais, aucune violence n'est nécessaire pour obtenir ses droits. Ce principe qui s'applique à l'employeur s'applique également aux travailleurs et je vous demande à vous, travailleurs, de collaborer dans ce même esprit. » C'était beaucoup de langue de bois, tout comme la NRA et ses commissions de travail n'étaient rien d'autre qu'une bureaucratie destinée à ralentir et à dévoyer l'organisation des syndicats. Très vite, certains syndicalistes nommèrent amèrement la NRA le National Runaround, jeu de mots signifiant « celui qui se défile au niveau national », note du traducteur. Il y eut une brusque augmentation du nombre des grèves qui grimpa de 841 en 1932 à 1695 en 1933, l'année où Roosevelt prit sa fonction. De façon encore plus spectaculaire, le nombre de grévistes, lui, quadrupla pour passer de 324 000 à 1 168 000. De nombreuses grèves mirent en cause les baisses de salaire que les industriels essayaient d'imposer sous le patronage de la NRA de Roosevelt et, entre guillemets, ses clauses au mérite discriminatoires, dont les patrons se servaient pour licencier, imposer des conditions de travail plus dures et accélérer la cadence. Lorsque les travailleurs se mettaient en grève, les entreprises et le gouvernement cessaient ces simulacres et répondaient avec une rage violente. Faisant son compte-rendu de 6 mois de New Deal du 1er juillet 1933 au 1er janvier 1934, l'American Civil Liberties Union, association américaine des droits civiques, accusait, entre guillemets, « À aucun moment il n'y eut autant de violations généralisées des droits des travailleurs par des injonctions, des soldats, des polices privées, des adjoints de shérifs, des indicateurs et des vigiles. Plus de 15 mineurs ont été tués, 200 blessés et des centaines arrêtés depuis le 1er juillet. » Plus de 40 injonctions majeures ont été lancées. L'armée a été envoyée dans une demi-douzaine de quartiers en grève. Des charges criminelles sont utilisées contre des dirigeants de grève actifs. 1934, les grèves générales. Malgré tout, le mouvement s'amplifia. L'année suivante, 1934, marqua une avancée massive avec 4 grèves majeures. La plus grande fut celle de la grève générale du textile, appelée par l'United Textile Workers, UTW, syndicat unifié du textile. Entre février 1933 et juin 1934, l'UTW se développa de façon spectaculaire, passant de 25 000 à 250 000 membres. Dans les mois précédant la grève générale, les travailleurs avaient déjà organisé de petites grèves locales, autant de répétitions qui poussèrent la direction nationale de l'UTW à appeler à la grève générale. La grève générale se répandit comme une traînée de poudre, souvent par le biais de piquets de grève volants qui allaient d'usine en usine, en camion ou à pied, appeler les travailleurs à faire grève. En une semaine, la grève s'étendit à 400 000 travailleurs dans 20 États, de la Nouvelle-Angleterre au Sud-Piémont, dans les grandes cités comme dans les petites villes, paralysant toute l'industrie du textile. Dans le Sud, la grève réunissait des Noirs et des Blancs, défiant les lois Jim Crow et le Ku Klux Klan. Les ouvriers firent face aux policiers, aux dizaines de milliers de soldats de la garde nationale et aux hommes de main des entreprises qui arrêtaient en masse les travailleurs des piquets de grève et essayaient de noyer la grève dans le sang. Après 16 jours, la grève fut vaincue. Mais cela restait la grève la plus importante depuis 1877 et elle avait eu maint trait commun avec les grèves insurrectionnelles de 1877. Une grève générale réussit également à paralyser San Francisco. La grève débuta quand 10 000 à 15 000 dockers tentèrent de constituer un syndicat. Tous les jours, pendant des semaines, les travailleurs se bagarrèrent contre les flics et les hommes de main des patrons. La grève se propagea alors aux autres travailleurs des quais de San Francisco, notamment aux marins, aux manutentionnaires et aussi à d'autres ports de la côte ouest. Après que la police eut ouvert le feu contre une manifestation, faisant 2 morts et plusieurs centaines de blessés, la loi martiale fut proclamée et la garde nationale, armée US de réservistes à temps partiel, note du traducteur, appelée en renfort. Les travailleurs répondirent par une grève générale de 4 jours, impliquant plus de 150 000 travailleurs, non seulement dans les grandes entreprises, mais aussi chez les coiffeurs, les blanchisseries, les cinémas et les restaurants. Les autoroutes furent bloquées et toutes les cargaisons entrantes furent arrêtées. Les travailleurs furent chassés militairement des rues et la bourgeoisie tenta de gagner du temps. Mais l'immense puissance de la grève finit par la pousser à accorder des concessions majeures. Les syndicats reçurent une forte impulsion et se répandirent dans tous les ports de la côte ouest ainsi que de la côte est. Quelques-unes des grèves de 1934 furent des victoires totales. À Toledo, dans l'Ohio, les grévistes des équipementiers automobiles furent rejoints par des chômeurs. Ils combattirent en bataille rangée pendant plus de 8 jours contre les flics et la garde nationale armée de tanks et d'artillerie. Finalement, les entreprises et le gouvernement cédèrent, concédant l'existence d'un syndicat, fournissant ainsi un premier point d'appui pour étendre le syndicalisme de masse à l'ensemble de l'industrie automobile. À Minneapolis, dans le Minnesota, une grève des transporteurs de charbon s'étendit aux camionneurs et aux manutentionnaires à travers la ville. Au cours d'une période de 7 mois, ces travailleurs se mirent en grève à 4 reprises, chaque fois plus nombreux, mieux organisés et plus militants. Lorsque les hommes de main des patrons et les flics assassinèrent 2 grévistes, le gouverneur appela la garde nationale et décréta la loi martiale. Mais là non plus, les travailleurs ne reculèrent pas et forcèrent les patrons locaux à reconnaître les syndicats, cette fois aux Teamsters, nom des routiers aux États-Unis, note du traducteur. Cette victoire ouvrit les États des plaines du Nord aux syndicalistes. À travers le pays, les grèves devenaient plus militantes, les travailleurs défiant les forces de l'ordre, y compris la garde nationale et les tanks. Une guerre civile était en gestation. Le jour du week-end de la fête du travail de 1934, dans un article d'une page entière, le New York Times posait le problème pour la bourgeoisie et le gouvernement. Entre guillemets, qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter les grèves? Ce n'est pas un nouveau problème, mais en 1934, c'est un problème qui se pose comme jamais auparavant. En d'autres termes, comment le gouvernement de Roosevelt pouvait-il rétablir la paix sociale? Le deuxième New Deal. Le mouvement ouvrier avait modifié le rapport de force. Les patrons et le gouvernement ne pouvaient plus imposer leurs ordres aux travailleurs comme ils le désiraient. Essayant de gagner du temps et de ralentir le mouvement, le gouvernement Roosevelt présenta un nouveau paquet de réformes en 1935, son deuxième New Deal. La première réforme fut la loi sur la sécurité sociale, Social Security Act, une loi cadre qui prévoyait la mise en place d'un système national de pension de vieillesse, des allocations de veuvage, des allocations de chômage et une aide financière aux familles ayant des enfants à charge. Cette loi représenta une concession historique. Pour la première fois, le gouvernement avait été forcé de concéder non pas seulement des aides sociales, mais des droits à ces aides sociales. Elle promettait de fournir une sécurité, une couverture sociale, de façon à ce qu'au moins les gens ne meurent pas de faim. Toutefois, cette loi avait de graves limites. Les domestiques et les ouvriers agricoles n'avaient pas droit à la pension de vieillesse, ni la plupart des Noirs. De plus, les pensions de vieillesse de la sécurité sociale américaine étaient financées par un fonds particulier, basé sur le principe d'une sorte d'assurance privée, de façon à limiter la croissance des allocations. Un impôt forfaitaire, et donc très régressif, devait être prélevé sur le salaire dès le premier dollar gagné. Quant aux premières pensions de vieillesse, elles ne devaient pas être payées avant 5 ans, ce qui signifiait que le gouvernement pouvait garder l'ensemble des impôts perçus sans avoir rien à reverser pendant ces premières années. C'était une manière détournée pour le gouvernement d'accroître le revenu à sa disposition. Les autres parties de cette loi étaient tout aussi restrictives. Les allocations de chômage, par exemple, n'étaient pas fixées selon des critères nationaux, mais au niveau des États fédérés et étaient financées par les gouvernements des États fédérés et de l'État fédéral. De fait, cela permettait d'offrir des allocations de chômage bien plus basses que la moyenne dans les États à bas salaire. Lorsque les allocations prenaient fin de plein droit, habituellement après 15 semaines, la loi n'offrait aucune autre aide sociale, hormis peut-être un emploi à très bas salaire dans le cadre de la WPA. Évidemment, ces petites allocations que le gouvernement ajoutait visaient à ralentir et à désorienter la mobilisation croissante de cette classe ouvrière qui venait d'arracher ses concessions. La seconde grande réforme de ce second New Deal fut la loi nationale sur les relations sociales, National Labor Relations Act, présentée par le sénateur de New York, Robert Wagner Sr. En mai 1935, la Cour suprême avait décidé à l'unanimité d'abroger la National Industrial Recovery Act, qui comprenait la section 7A, cette reconnaissance symbolique par le gouvernement du droit, entre guillemets, de négociation collective pour les syndicats. Presque immédiatement après, le Congrès adopta la loi sur les relations sociales, qui restaurait les dispositions de la section 7A et proposait de mettre en place une commission nationale des relations sociales ayant le pouvoir de statuer sur la reconnaissance éventuelle d'un syndicat organisé par des travailleurs. C'était également cette commission qui déterminerait si une entreprise s'était livrée, entre guillemets, à des pratiques déloyales en matière de travail. En d'autres termes, cette commission visait à tenter, par tous les moyens, d'empêcher les grèves. Bien sûr, ces questions sont fondamentalement tranchées par le rapport de force. En déclarant aux travailleurs qu'il fallait demander à l'État l'autorisation de créer un syndicat, on leur signifiait que c'était aux bureaucrates du gouvernement d'en décider et non pas aux travailleurs de choisir eux-mêmes la manière dont ils s'organiseraient. Le tour de la bourgeoisie. Le soutien du Congrès à la loi de 1935 sur les relations sociales fut massif. Le Sénat vota en sa faveur par 63 voix contre 12. Mais la nouvelle loi fut contestée par l'Association nationale des industriels, National Association of Manufacturers, indiquant qu'une partie importante de la bourgeoisie désapprouvait nombre d'aspects de la politique de Roosevelt. Ses patrons se méfiaient de ce qu'ils considéraient comme une intervention croissante du gouvernement. Mais ils voulaient aussi que le gouvernement sévisse bien plus fermement contre la menace de syndicalisation de leurs salariés. La famille Dupont, qui contrôlait General Motors, et les leaders conservateurs des partis démocrates et républicains, dont Al Smith, un des vieux supporters de Roosevelt, formèrent l'American Liberty League, en opposition ouverte au gouvernement Roosevelt sous le prétexte, entre guillemets, de préserver la Constitution, la propriété privée et de s'opposer au radicalisme. Néanmoins, en 1936 et 1937, le mouvement ouvrier continua de s'amplifier avec des grèves et des occupations d'usines qui débutèrent dans le caoutchouc et culminèrent dans l'automobile. General Motors, contrôlé par cette même famille Dupont qui s'était opposée à la politique de Roosevelt, était touché par des grèves avec occupation. Incapable de briser les grèves, General Motors changea de stratégie et accepta, entre guillemets, d'accorder la reconnaissance du syndicat. Mais General Motors refusa de négocier avec les véritables leaders de la grève. À la place, John L. Lewis, qui fut longtemps le dirigeant du syndicat des mineurs, fut choisi par General Motors pour signer un accord dans le dos des travailleurs. Une partie importante de la bourgeoisie US abandonna sa stratégie d'opposition systématique au syndicat, car elle avait compris les avantages procurés par ce que Roosevelt avait mis en place, c'est-à-dire une politique permettant de repérer les dirigeants syndicaux avec lesquels on pourrait collaborer. Ce changement se confirma immédiatement après l'accord chez General Motors, lorsque l'US Steel, de loin la première entreprise sidérurgique du pays, accorda la reconnaissance syndicale, sans qu'il y ait eu de grève, au vieil appareil syndical de United Mine Workers de Lewis. Cet appareil avait été reconstitué sous le nom de Comité d'organisation des travailleurs de l'acier, imposant ainsi, dès le départ, une bureaucratie syndicale aux travailleurs de la sidérurgie. 4 ans plus tard, cette politique se répandit, après qu'une grève massive eut mis à l'arrêt le site industriel de River Rouge, d'Henry Ford, qui employait près de 80 000 travailleurs à Dearborn, dans le Michigan, le fief même de Ford. Incapable d'en finir avec la grève, Ford, entre guillemets, offrit de reconnaître le syndicat, mais seulement à condition que les travailleurs acceptent de prendre part à un vote organisé par le gouvernement. L'idée que les travailleurs ne pouvaient s'organiser sans obtenir au préalable une autorisation de l'État était gravée dans la pierre. En 1940, Léon Trotsky caractérisait ce phénomène comme, entre guillemets, la dégénérescence des organisations syndicales modernes. Ils se rapprochent du pouvoir d'État et grandissent avec lui. Il porta une attention particulière au mouvement de grève aux États-Unis et à la formation des nouveaux syndicats. Entre guillemets, aux États-Unis, le mouvement syndical a traversé la période la plus houleuse de ces dernières années. La montée en puissance du CIO est la preuve irréfutable des tendances révolutionnaires au sein des masses ouvrières. Ce qui est révélateur et qu'il convient de souligner, c'est que, aussitôt la nouvelle organisation syndicale, entre guillemets, gauchiste fondée, elle tomba sous la poigne de fer de l'État impérialiste. Dès que les travailleurs eurent construit leur syndicat contre l'opposition des entreprises de l'État, les dirigeants de ces syndicats s'intégrèrent à un partenariat avec ces derniers. Ce partenariat contint et canalisa les combats et les organisations militantes avec la promesse que les entreprises et le gouvernement avaient été, entre guillemets, convaincus de devenir, entre guillemets, plus raisonnables, défendant l'idée qu'il était désormais possible d'avoir le gouvernement de son côté et que parmi les politiciens haut placés, il y avait de supposés puissants, entre guillemets, amis des travailleurs, qu'il ne fallait pas s'aliéner en poussant les luttes des travailleurs trop loin. Le bilan. Évidemment, ce New Deal, avec sa bureaucratie syndicale, ne mit pas un terme aux attaques contre la classe ouvrière et ses militants. Au contraire, elles se poursuivirent sous le prétexte de la chasse aux sorcières anticommunistes. En 1938, la nouvelle commission de la Chambre des représentants pour les enquêtes sur les activités anti-américaines, dirigée par un membre du Congrès, un démocrate texan du nom de Martin Dies, enquêta sur le CIO, présenté comme une pépinière de la sédition communiste. 2 ans plus tard, Roosevelt signa le Smith Act qui stipulait que ceux qui n'avaient pas la nationalité américaine devaient se faire enregistrer auprès des autorités de l'État et que toute personne déclarée coupable de défendre des idées communistes pourrait être poursuivie pour menace à la sécurité nationale. Ces lois visaient les organisations ouvrières puisqu'un très grand nombre d'organisateurs syndicaux de cette époque étaient des communistes appartenant à une organisation ou à une autre. Le gouvernement continua à briser des grèves. En 1941, le gouvernement de Roosevelt alla jusqu'à envoyer les troupes fédérales pour mettre fin à une grève des travailleurs de l'aéronautique à North American Aviation à Los Angeles. Un des dirigeants de cette grève était Wyndham Mortimer, membre du Parti communiste, qui avait été parmi les premiers syndicalistes de l'UAW, syndicat automobile américain, dans plusieurs usines de General Motors dans le Michigan et l'Ohio. Plus tard, au cours de la même année, le gouvernement eut recours au Smith Act pour poursuivre et emprisonner les dirigeants du Socialist Worker Party, SWP, et ceux qui s'étaient alliés avec eux dans le syndicat des Teamsters, qui avait dirigé la grève de Minneapolis de 1934 et qui avait réussi à organiser les routiers, entre guillemets, longue distance, dans les États de la plaine du Nord. Ce qui devint connu comme la chasse aux sorcières de McCarthy ne débuta pas avec le conservateur républicain McCarthy dans les années 50, mais avec le libéral-démocrate Roosevelt à la fin des années 30. Les programmes du New Deal n'arrivèrent pas à en finir avec la Grande Dépression. Il y eut à l'évidence une reprise économique partielle entre 1933 et début 1937. Mais ce fut surtout une reprise pour les profits des sociétés qui passèrent d'une perte nette en 1933 à un profit net de 7 milliards de dollars en 1937. Malgré ces profits, les entreprises n'investirent quasiment pas et embauchèrent encore moins, laissant le taux de chômage bloqué à plus de 14%. Dans ce contexte, Roosevelt réduisit les dépenses publiques en juin 1937 et particulièrement les travaux publics. Il réduisit le personnel du WPA de manière radicale au nom, entre guillemets, de la responsabilité fiscale et supprima encore des centaines de milliers d'emplois publics. L'économie plongea. En octobre 1937, une nouvelle panique secoua la bourse et cette dernière chuta encore plus vite qu'après le krach d'octobre 1929. Dans le dernier trimestre de l'année, la production d'acier chuta de 75% par rapport à son niveau de l'année précédente, imposant un déclin de 40% de la production industrielle. À la fin de cet hiver-là, plus de 2 millions de travailleurs avaient reçu leur avis de licenciement, faisant grimper le taux de chômage à 20%. À Détroit, la liste des bénéficiaires d'aides sociales avait quadruplé par rapport à leur niveau du début de l'année 1937. Les pires conditions du début de la décennie réapparurent. Certains l'appelèrent, entre guillemets, la récession Roosevelt. C'était une dépression dans la dépression. C'est seulement lorsque le gouvernement Roosevelt commença à dépenser des montants sans précédent dans la production militaire que l'économie commença à se rétablir. En d'autres termes, l'ensemble des programmes du New Deal, tous les travaux publics, n'arrivèrent pas à sortir l'économie capitaliste de sa crise. La reprise économique se fit avec la guerre. Ainsi, l'humanité paya deux fois un tribut horriblement lourd, une première fois pour l'effondrement du système capitaliste lors de la Grande Dépression, et une deuxième fois un tribut encore plus lourd pour le prétendu entre guillemets remède contre la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale. Non, en aucune manière, le New Deal de Roosevelt n'a constitué un modèle pour améliorer le sort de l'humanité face au fonctionnement absurde du capitalisme. 25 juillet 2008.